les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Curieux des ondes et amoureux de la radio, bonjour, vous écoutez les ondes buissonnières sur Radio Saint-Ferréol. Vous savez, cette émission, on aime bien vous faire découvrir des créations sonores, des documentaires sonores, souvent des fictions également. Aujourd'hui, je ne sais pas trop quelle étiquette mettre au son qu'on va écouter, mais de toute façon, j'aime pas les étiquettes, donc ça tombe bien. Je vous propose d'écouter le premier épisode d'une série, une série qui s'appelle « Un durian dans l'oreille ». Elle est signée Julien Sarty et on a la chance d'avoir Julien Sarty au bout du fil pour cette émission qui pourra nous raconter un petit peu les coulisses de fabrication de cette émission depuis un pays bien lointain puisqu'il se trouve au Vietnam en ce moment. On écoute donc tout de suite « Un durian dans l'oreille » épisode 1, ça s'appelle « Saigon, la fabrique du bruit » et on retrouve juste après Julien Sarty.
Cảnh những người ra trận bao đời nay đều như vậy cả, hết như vậy.
Pour parler d'un pays, il y a des photos, il y a des souvenirs. Ici, je vous propose un voyage sonore au cœur du Vietnam dans le cadre de cette série intitulée « Un durian dans l'oreille ». Un objet hybride entre expérimentation immersive et la carte postale. Pour ce premier épisode, je vous amène dans une plongée nocturne au cœur de la bruyante Saigon, un monstre urbain de plus de 10 millions d'habitants. Ça s'appelle Saigon, la fabrique du bruit. Et c'est le premier épisode d'un durian dans l'oreille.
Thank you.
Allô?
Where are you?
Yeah, I am in front of your house.
Okay.
My name is Nguyễn Hồng Giang. Yeah, I'm from Saigon, Vietnam. Now I am a producer music. Yeah, so I do the experimental noise music. Yeah. So I beginning when I am teenage. So I have the Hux Noise project called The Brighter. Yeah. So I perform with this project with only analog equipment. Yeah. Distortion, Hux Noise. Yeah. So if you ask about Japan artists, so Musbo or Incapacitan, Astro, yeah, a lot. I think this kind of music is maybe the people can listen to this. Yeah, not too many people can listen to this.
Okay. My name is Hong Nguyen, and I became a monk 2 years ago. And I was, I am 34 years old. This rare for Buddhist monk, because they, when you become a monk, you need to practice every day to get enlightenment. If you follow the Buddha, so you don't have to follow any god, because the Buddha is the teacher of the human being and gods.
Thank you.
sur les bonnes ondes de Radio Saint-Fée. On écoute les ondes buissonnières et vous venez d'écouter un durian dans l'oreille. Un durian dans l'oreille, c'est une expérience immersive, un objet hybride signé Julien Sarty. Et pour la suite de ces ondes buissonnières, eh bien, j'ai la chance d'avoir Julien Sarty, non pas en studio avec nous, mais plutôt au bout du fil, très très loin de Cray et ses environs, puisque Julien, tu es du côté de Saigon, au Vietnam. Salut Julien.
Bonjour, bonjour Héloïse. Et oui, oui, bien différent ici, Saigon, les tropiques, plus de 10 millions d'habitants. Voilà, je suis au Vietnam pendant à peu près 2 ans normalement. Voilà, et content d'être avec vous par le biais des ondes.
Ouais, c'est quand même pratique hein, tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, toi, ça fait déjà quelques mois hein, que tu t'es installé à Saigon?
Voilà, moi je suis enseignant dans la vie de tous les jours et aussi créateur sonore. Et du coup, je suis arrivé au Vietnam, tant bien que mal avec ce contexte-là, mais au mois d'août. Une petite quatorzaine en hôtel. Et puis voilà, me voilà sorti. Et donc, je découvre cette ville qui bourdonne, qui fait du bruit, qui est vraiment impressionnante pour tous les sens. Je t'avoue qu'au début, j'ai été un petit peu abasourdi par tout ça. Ça allait très vite, ça allait très fort. Voilà, et bon, voilà, forcément, en venant au Vietnam, je savais que je voulais faire une série sonore. Je ne savais pas encore trop. J'ai pensé à un moment donné travailler sur Saigon la nuit, sur les lieux improbables de nuit, et puis finalement j'ai choisi d'élargir un peu mon propos à tout le Vietnam sur les voyages que je pouvais faire là et essayer de trouver moi j'aime bien les formes hybrides, j'aime bien quand on sait pas trop ce que c'est, et donc là voilà, j'ai choisi de faire une série qui s'appelle Un durian dans l'oreille, en mêlant les sons enregistrés dans la rue, dans la campagne, les rencontres que je peux faire, en les rebricolant, en composant aussi, donc voilà, entre ce qu'on appelle le field recording, donc les sons qu'on peut enregistrer bruts, et les expérimentations, des choses parfois un peu plus musicales. Voilà, là c'est le premier épisode, peut-être que le second, qui sera dans un autre endroit du Vietnam, sera très différent. Et voilà ce que je peux dire.
Alors, tu disais que tu étais à la fois professeur des écoles et à la fois créateur sonore. En création sonore sur Radio Saint-Fée, il y a peut-être des auditeurs et des auditrices qui te connaissent déjà, ou en tout cas qui connaissent déjà ce que tu proposes, puisqu'on a diffusé, je ne me rappelle plus si c'était sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, ma mémoire est un petit peu floue, mais on diffusait une émission que tu faisais sur Radio Méga, qui s'appelait La soupe primitive. Et puis, à l'époque, on avait organisé aussi une séance d'écoute et on avait diffusé un son que tu avais fait qui s'appelle Sommeil paradoxal. Donc, créateur sonore, Julien Sarty, depuis quand?
Depuis quelques temps maintenant. je ne sais pas. Depuis peut-être... alors, attends, je compte. 15-20 ans. Mais par petits bouts, là, ça s'intensifie un peu avec des nouveaux projets. Pour moi, c'est aussi une façon de découvrir des mondes, la création sonore. Hein. Donc là, Sommeil paradoxal, c'était un projet complètement différent, puisque je suis aussi collectionneur de disques absurdes, des disques avec des voix, des disques pour apprendre à faire des choses. Ça peut être pour apprendre à jouer de la flûte, pour apprendre à soigner ses maladies vénériennes, enfin à peu près tout ce qui existait dans les années 60-70, tout passé par le sonore. Et donc là, pour cette création sonore, j'ai utilisé ces voix pour faire un projet autour du rêve, du sommeil, et donc voilà, c'est un truc très hallucinatoire. Ça, c'était un projet, mais bon, voilà, j'ai eu d'autres projets très différents. La radio aussi, oui, avec cette émission qui s'appelait La soupe primitive, où avec mon comparse Bastien, une fois par mois, on choisissait une thématique et on allait chercher, on allait fouiner aussi sur internet, dans nos vinyles, dans des livres, enfin voilà, tout ce qui pouvait être sonore. Voilà, et puis ouais, il y a eu plein d'autres projets, des projets en lien avec le musée, des projets, un projet qui m'a été proposé aussi par le CNES, le Centre National des Études Spatiales. Voilà, tout ça, à chaque fois, c'est des nouveaux mondes et des nouveaux environnements et des nouvelles choses à découvrir, et c'est assez passionnant.
Alors tout à l'heure, tu parlais, tu disais que tu aimais bien les formes hybrides, des choses qui se mélangent. Tu as parlé de field recording. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails de ce que c'est que le field recording pour les auditrices et les auditeurs qui ne sont pas forcément aguerris à la prise de son?
Oui. Le field recording, ça peut prendre différentes formes. D'ailleurs, je vous conseille un bouquin qui s'appelle... Aïe, je vais retrouver les notes. Il y a field recording forcément dedans, mais en tout cas, il y a plein de références de disques plus ou moins récents là-dessus. Donc, le field recording, c'est des sons qu'on peut enregistrer... ça peut être dans les trains, ça peut être des artistes qui vont enregistrer des chants d'oiseaux. Vous avez Fernand Desroussins, pas très loin de chez vous, je crois.
Du côté de
Audio Naturalis, par exemple. Voilà, qui fait ça magnifiquement bien. Félix Blum aussi, qui va enregistrer. Lui, par exemple, il a une création où il a été posé des micros sur des chiens dans la rue. Je crois que c'est au Mexique, au Brésil, j'ai un doute. Voilà. Et puis, alors, du coup, ça peut être très brut, le field recording, comme des sons qu'on va juste comme un témoignage de ce qui peut se passer et un hommage aussi à l'environnement sonore. Et puis ça peut être beaucoup plus retravaillé, recomposé, où là des gens comme je peux citer Chris Watson, qui a fait un album magnifique sur le train qui s'appelle Le Train Fantasma, je vous conseille vraiment, où là lui il a été enregistré un train, je crois, qui traversait le Mexique. Et après, il a recomposé avec tous les sons qu'il avait pu prendre dans ce train pour en faire une œuvre magnifique et très, très musicale. Ouais.
Toi, tu t'amuses à les tordre. Les sons ne sont pas forcément des plans séquences que tu proposes. Tu les tords, tu les superposes, si je ne me trompe pas, en tout cas à l'écoute d'un Durian dans l'oreille, par exemple. Comment tu t'y prends?
Oui, c'est complètement ça. Alors, ce qui est un peu compliqué à Saigon, c'est qu'il y a du son tout le temps. Donc, il y a beaucoup de couches tout le temps. Et moi, ce que j'aime faire aussi parfois, c'est avoir de la matière. Et puis, je pense à cette citation de Père Antoine, qui est un créateur, qui est un des pères du documentaire sonore, qui comparait la création sonore à tout ce qui est peinture. Et pour moi, c'est un peu ça, c'est aller chercher des ingrédients, c'est-à-dire moi, mes éléments sonores dans la ville, pour après les utiliser comme de la matière et en faire un tableau. Voilà, c'est un peu l'idée. Après, à Saigon, il faut trouver les petites rues où il n'y a pas trop de motos qui font trop de bruit pour pouvoir isoler des éléments, après les retravailler. Moi, je me suis retrouvé sur une petite place, par exemple, où il n'y avait pas grand monde à enregistrer le son du clignotant de ma moto, de mon scooter, pour après le retravailler là-dessus. Voilà, mais oui, moi, c'est... En fait, l'idée un peu que j'avais, c'était de... Devant cette... Je ne sais pas si je vais essayer d'expliquer ça. Comme là, ton regard, qui peut se flouter par moment, tu sais, quand il y a beaucoup de furie, quand il y a beaucoup de choses, et ben au bout d'un moment, ton regard, il se floute et tu vois plus que des lumières, des choses beaucoup plus abstraites. Et pour moi, c'était un petit peu l'idée de ma création sonore, c'est-à-dire partir d'éléments reconnaissables pour après partir, aller vers quelque chose de beaucoup plus abstrait, de beaucoup plus flou, beaucoup plus peut-être dans l'imaginaire.
Tu parlais de Yann Parantoen tout à l'heure, qui était surnommé sculpteur de son. Tu as l'impression de sculpter comme ça la matière sonore?
Ouais, alors je ne sais pas si je suis prêt à me comparer à Yann Parantoen, mais en tout cas, c'est un peu ce vers quoi je veux aller. J'ai toujours aussi eu cette réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour raconter un voyage, un moment. On se focalise beaucoup sur les photos, et du coup là, moi, je voulais être dans le sensoriel, mais vraiment par le biais du son, quoi. Donc, sculpter le son, moi, ça me parle bien. J'utilise de la matière pour vous emmener quelque part dans mon voyage, quoi, dans mon voyage sonore.
Et pour préciser, hein, tu l'as souligné, mais tu disais à Saigon, il y a tout le temps du bruit et du son. Il y a tout le temps du son, qui est des sons qui se superposent et c'est compliqué. Il faut savoir que quand on prend du son, on est aussi assez friand du silence. On est assez friand d'avoir un son isolé. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est compliqué, comme tu dis, quand il y a tout le temps du bruit. Mais tu n'as pas pris du son au Vietnam qu'en ville, dans des milieux urbains. Tu es aussi allé dans des endroits beaucoup plus calmes. pour la suite des épisodes d'Indurian dans
l'Oreille.
Oui.
Par exemple, prochain épisode, je vous amène à la frontière chinoise, donc dans le nord-nord-nord du Vietnam, dans une région très montagneuse, avec pas mal d'ethnies différentes. Il faut savoir qu'au Vietnam, il y a 54 ethnies différentes, avec à chaque fois des traditions, une culture, même physiquement, des gens très différents, des vêtements, et des vêtements qui sont propres à chaque ethnie. Et donc là, on va aller voir un peu les Hmongs, les Yao. Voilà. Moi, j'ai découvert ça au mois d'octobre. Je suis parti avec ma moto, et puis j'étais enregistré des sons. Je me suis retrouvé... des fois, face à des choses que je ne comprenais pas trop, parce qu'il y a beaucoup d'animisme aussi là-bas. Donc, je me suis retrouvé, par exemple, dans une petite cour avec des gens qui m'ont dit « c'est bon, tu peux rentrer ». Et c'était un enterrement. Je me suis aperçu que c'était un enterrement qui avait du coup au milieu des morceaux de chiens qui étaient découpés. Et puis, y avait une pièce où il y avait beaucoup de sons. Je me suis approché, j'ai pas voulu rentrer parce que je me sentais pas forcément à ma place, mais voilà, j'ai pris un petit peu de son de loin. Il y avait du coup un cercueil au milieu, et puis des hommes qui étaient en pleurs, qui frappaient sur le cercueil. Voilà, c'était vraiment des moments ultra forts. On se pose toujours la question à ce moment-là de ce qu'on fait de notre enregistreur. Donc un deuxième épisode qui sera complètement différent du premier. Il sera beaucoup moins bruyant pour ceux qui ont souffert. Pour le premier épisode et qu'on trouvait la chose un peu forte en décibels, le deuxième épisode sera plus calme et vous amènera autre part. À chaque fois, on partira dans un coin du Vietnam.
Et cette histoire-là que tu as vécue et à te retrouver dans un enterrement, est-ce que tu penses au Vietnam précisément, mais peut-être aussi en général, mais peut-être au Vietnam dans un pays dont tu ne maîtrises pas forcément la langue et la culture, est-ce que tu penses que le micro, c'est un peu un passeport un peu pour entrer dans des endroits où tu ne rentrerais pas, où tu ne serais pas forcément accepté? Est-ce que le micro, c'est un bon prétexte?
Oui, je ne sais pas s'il est toujours compris. En tout cas, moi, ça donne du sens à mon voyage. J'ai jamais eu de gens qui m'ont dit non, là c'est pas possible, c'est plus moi qui mets une barrière quand je le sens pas. Là par exemple, je me sentais pas de rentrer dans cette pièce, je trouvais que le micro avait pas sa place. Pour moi c'est aussi une façon de découvrir le pays, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe par le son, et puis après je vais lire un peu des choses pour essayer de comprendre un peu mieux de quoi est fait ce pays, quoi.
Et alors, est-ce que tu parles vietnamien?
Alors, tchouk tchouk. Tu vois, ça veut dire un petit peu. C'est une langue un peu désespérante, en fait. Hein. Cette langue a une grammaire très simple, du type tu conjugues jamais. Donc, tu dis je mangeais, tu mangeais, il mangeait. Mais alors, la prononciation, c'est extrêmement compliqué. Je crois qu'il y a six tons différents. En fait, c'est que des monosyllabes. Donc, t'as pas de mots longs. T'as que des car, et t'as le car, car, car. Et ça veut dire, ça, tu vois, je dis trois cas, ça peut vouloir dire aubergine, fils aîné ou poisson. Donc, tout ça rend la chose un peu difficile. Je m'accroche, je prends des cours, mais c'est pas facile.
Et du coup, j'imagine que ça induit aussi des échanges qui sont particuliers, toi qui t'adresses à des personnes qui te comprennent ou te comprennent à moitié. Tu en joues aussi de ça dans tes prises de son, dans tes enregistrements? Est-ce qu'on l'entend? Dans ce premier épisode, on a entendu parler anglais, mais on n'a pas entendu parler vietnamien, donc je ne sais pas comment ça s'est passé pour les prochains.
C'est difficile, d'autant plus que dans le Nord, chez les ethnies, en fait, ils parlent. Il y a des fois des villages où ils ne parlent pas vietnamien, en fait. Ils parlent la langue de l'ethnie. Donc là, dans le deuxième épisode, c'est difficile de se faire comprendre par ce biais-là. Je tentais quand même des choses. Je sais pas vraiment quoi répondre à cette question. Est-ce que j'en joue ou pas?
Ou du moins, est-ce que tu t'en sers?
Je pense qu'il y a, un dialogue qui se fait par moment en dehors de la langue, et une communication qui est limitée, mais qui peut passer par le corps. Et moi, je sais que ça m'est arrivé de vraiment me connecter à des gens sans avoir de la langue commune, en fait. Voilà, je pense qu'il y a des situations, des fois, moi j'aime bien jouer avec l'humour, par exemple, et ça peut marcher pour essayer de se faire comprendre, en tout cas de voir qu'on est là parce qu'on est curieux et qu'on a envie de découvrir leur culture.
Est-ce que tu peux nous raconter d'autres moments qui ont été importants pour toi dans la prise de son, qui t'ont marqué, qui ont été, je ne sais pas, émouvants, drôles, nous faire profiter un petit peu des coulisses de ce que tu as pu vivre?
Alors oui, dans les moments émouvants, importants en tout cas, de ce que j'ai pu vivre depuis ces premiers mois. Donc j'étais toujours dans la même région, donc dans la région d'Ajang, dans le nord. Et il faut savoir que même dans les montagnes, il y a quand même toujours des bruits de moto. Moi, je circulais à moto aussi. Et il y a un moment donné, je me suis dit que je loupais plein de choses parce que ma moto, elle faisait du bruit, forcément. Moi, je me déplaçais, itinérance. Donc du coup, j'ai décidé de m'arrêter, d'aller dans un petit chemin et là, de m'arrêter et d'enlever mon casque aussi parce que le casque, forcément, le casque de moto, ça coupe beaucoup de son. Et d'écouter. Et là, dans un champ, j'ai entendu champ, C-H-A-M-P, j'ai entendu quelqu'un qui, je sais pas, c'était très étrange, très très étrange, c'était entre le chant, C-H-A-N-T, et les pleurs, et ça durait très longtemps, j'ai vu une femme de dos qui chantait, qui avait l'air désespérée, enfin très triste. Je ne me suis pas beaucoup plus approché, j'ai pris un peu de son de loin en me disant ça donnera ce que ça donnera, et puis c'est pareil, là aussi je ne savais pas exactement si je voulais aller au bout du truc, je me trouvais aussi un peu trop. Et après, bon, voilà, j'ai lu que voilà, c'était des chants rituels chez les Hmongs juste après une funéraille, après des funérailles. Et voilà, ce son, j'ai réussi à le récupérer, il est quand même vraiment beau, il sera dans l'épisode numéro 2, donc ça c'était un moment très fort. Un autre moment, là, j'étais dans les hauts plateaux, donc les hauts plateaux du Vietnam, c'est une région qui est très riche en café, et il y a aussi des ethnies, là notamment, il y a une ethnie qu'on appelle les Banars, où les gens sont beaucoup plus foncés de peau. Il y a une maison communale qui est très jolie, ça s'appelle les Rong, R-O-N-G, si vous voulez regarder. Donc c'est des maisons en bois, sur pilotis. Très belle, et dans cette région qui est très animiste, hein, ils croient tous aussi aux forces de la nature, ils sont aussi très 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 catholiques. Et donc là, c'était une petite place de village vraiment, je dormais là dans un petit hôtel, je rentre un soir, et dans l'église j'entends du bruit, j'entends chanter, donc je m'approche avec mon micro, et il y avait la chorale du village qui chantaient, des jeunes qui répétaient ensemble. C'était très, très beau. Il y avait ici, ce qui m'a vraiment, je pense, d'autant plus, ça me touche encore plus avec le contexte européen, peut-être du monde moderne aussi, mais il y a vraiment un grand plaisir d'être ensemble, quoi. Les enfants, ils se retrouvent toute la journée, ils jouent au foot, les dames, elles cuisinent ensemble. Et là, de voir ce chant, là, dans cette église, le soir, là, il faisait nuit, les jeunes répétaient, c'était très beau. Voilà, et puis, ouais, dans plein d'autres histoires, là, il y a une semaine, j'étais dans le delta du Mekong, donc dans le sud-sud du Vietnam. Là, j'étais à vélo, et puis, voilà, j'étais près d'une rizière. Et j'ai vu des centaines de canards dans la rizière, donc je suis descendu. Donc j'étais avec mon micro en train d'essayer de courser des canards dans la rizière qui se baladaient tous ensemble, là, mais ouais, qui faisaient des grands mouvements, des grandes vagues de mouvements de canards. Voilà.
Ça crée des images, hein, tout ça. En tout cas, le son, enfin, de t'entendre raconter, mais aussi le son en lui-même, ça crée des images et ça fait voyager, en tout cas.
Moi, je crois que c'est vraiment ce que j'aime le plus dans la création sonore, hein, c'est faire des images avec du son. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et je les trouve encore plus fortes que les vraies images, parce qu'elles laissent de la place pour l'imaginaire, ce que les images ne donnent peut-être pas, parce que du coup, elles sont là devant nous. Le son, il permet quand même de pouvoir laisser un peu son imaginaire divaguer, quoi.
Une question pour les auditrices et les auditeurs qui peut-être s'intéressent un peu plus près au son. Tu utilises quoi comme matériel d'enregistrement ?
Alors moi, j'ai un Zoom H5. Je suis pas un grand technicien, je vais dire la vérité. Donc cet enregistreur, il est très bien parce qu'il est compact et que moi, vu mes conditions de voyage et tout, j'aime pas avoir plein de matériel. Ça, c'est quelque chose qui m'embête en fait. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Et puis j'ai deux micros en plus des Octava MK12. Donc voilà, c'est pour si on veut être technique un peu
à puissance
au sein que ça en stéréo. En fait, mon Zoom c'est un petit enregistreur enregistreur là dans la main qu'on tient dans la main tout petit, enfin, pas très grand en tout cas, qui permet d'avoir un son on va enregistrer plutôt devant. Et là, mes deux micros, je les mets sur une petite barre et je les écarte. Et ça permet d'avoir beaucoup plus un paysage sonore, c'est-à-dire d'avoir un son beaucoup plus large. Voilà, si je veux avoir soit un mouvement, soit avoir vraiment tout ce qui a plusieurs choses, plusieurs éléments sonores qui sont autour de moi, je vais plutôt utiliser ça.
Merci pour ces précisions, Julien. Une question. Cette série d'émissions, elle s'appelle Un durian dans l'oreille. Un durian, c'est pas tout à fait commun chez nous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
C'est le fruit star ici. Alors, ouais, mais il faut l'amadouer. Le durian, il n'est pas facile au début. C'est un fruit qui est très gros. Je pense que c'est un des plus gros fruits qui existe avec le jacquier. C'est un fruit qui est infect au premier abord, c'est-à-dire qu'il a une odeur horrible. Vous mettez du poisson dans un camp de toilette, vous le mettez au soleil et vous le mettez dans je ne sais pas quoi, ça peut donner ça. Et puis en fait, vous vous rendez compte que ce truc-là, au goût, c'est vraiment meilleur. La première fois, vous trouvez ça plutôt pas trop mal. Et puis, enfin, moi, en tout cas, j'aime de plus en plus. Après, c'est quand même extrêmement, c'est une expérience. Hein. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait ce nom. Alors, parce que le durian, pour moi, c'était assez associé à l'Asie du Sud-Est. Et puis, en plus de ça, y avait ce côté expérience sensorielle aussi. C'est-à-dire que le durian, c'est un fruit donc du coup qui sent très fort et qui a une espèce de texture grasse qui peut débecter aussi un peu. Et voilà, donc c'était un peu pour le clin d'œil à la fois au niveau de ce que j'espère, en tout cas cette série sonore va pouvoir évoquer sur vous au niveau sensoriel, et puis à la fois voilà le clin d'œil à l'Asie du Sud-Est puisqu'on peut retrouver ces fruits. Je crois beaucoup en Malaisie, en Thaïlande. Voilà, ici c'est vraiment le fruit le plus cher qu'on peut retrouver dans plein de choses, hein, dans les glaces. Ils font même des espèces de beignets, voilà, des jus aussi avec de la canne à sucre.
Merci.
Voilà, le durian.
Merci pour cette précision. Merci aussi pour cette interview du bout du monde, Julien Sarti. Donc, on a écouté en début d'émission le premier épisode de la série Un durian dans l'oreille qui s'appelle Saigon, la fabrique du bruit dans les ondes buissonnières sur Radio Saint-Ferréol. On aura l'occasion, si tu es toujours d'accord, d'écouter les autres, de diffuser les autres sur Radio Saint-Fé, notamment le deuxième qui s'appelle Au bout du monde. Je crois que le troisième s'appelle Chez les banards et peut-être qu'il y en a d'autres encore. En tout cas, on va essayer de les diffuser sur Radio Saint-Fé. Je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que cette émission elle est rediffusée samedi matin à 9h. Et puis, vous pouvez retrouver toutes nos émissions et les ondes buissonnières y compris sur le site internet de la radio www.radiosaintfé.com, rubrique émission de la rédaction, et c'est les ondes buissonnières. Merci beaucoup à toi, Julien, et puis au plaisir. Et bonne fin de voyage.
Oui, alors si je peux rajouter une dernière petite chose. Vous pouvez retrouver, si vous êtes intéressé pour découvrir mes créations, j'ai un site web tout frais, tout neuf qui sort là.
Ah, c'est pour ça que je le savais pas.
C'était vraiment le truc dernière actualité. Il s'appelle www.juliensarti. Sarti avec un i, rien de plus compliqué. .com.
www.juliensarti.com, on peut retrouver donc tes créations et il y a beaucoup de choses très différentes, donc allez y faire un tour. Merci Julien.
Voilà. Merci beaucoup.
Les ondes buissonnières.
Oui.
Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.